Vatican News, le journal, il est 8h30.
Des premiers résultats décevants pour Benjamin Netanyahou en Israël. Le Premier ministre sortant est légèrement devancé par son rival Benny Gantz. Les jours prochains s'annoncent ardus pour trouver une coalition. Nous partons à Jérusalem juste après les titres. Quelle riposte américaine après l'attaque de deux pétroliers saoudiens samedi dernier? Question à laquelle va tenter de répondre Mike Pompeo aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain a été dépêché à Riyad par Donald Trump. Emmanuel Macron à Rome ce mercredi. Une visite très symbolique après des mois de tensions franco-italiennes. Le contexte aujourd'hui est autre. Paris veut repartir du bon pied avec le nouveau gouvernement italien. Et lui aussi escompte un nouveau départ. Le président congolais Félix Tshisekedi table sur une normalisation des relations avec l'ancienne puissance coloniale belge qu'il visite depuis hier. Nous verrons dans notre dossier tous les ressorts diplomatiques de cette visite.
Le journal Delphine Allaire.
Soirée difficile hier pour Benjamin Netanyahou au coude à coude avec son principal rival, l'ex-chef d'état-major Benny Gantz. Aucune majorité claire ne se dessine pour le parti du Premier ministre sortant, le Likoud, ni pour le bloc qu'il forme avec ses alliés de droite. C'est ce qui ressort des premiers résultats tombés hier soir sur lequel revient notre correspondant à Jérusalem, Serge Ronen.
Il s'avérait alors que la formation centriste bleu-blanche avait légèrement le dessus sur le Likoud de Netanyahou. Mais aucun des deux grands blocs, gauche-droite, n'était parvenu aux 61 sièges nécessaires pour contrôler le Parlement. Aucun des deux blocs n'est donc en position de former le nouveau gouvernement israélien. La seule possibilité est de former un cabinet d'union nationale, mais cette éventualité est semée d'embûches. C'est ainsi que les partis religieux refusent de siéger dans le même gouvernement que messieurs Lapid et Lieberman, le premier bleu-blanc, le second leader du parti russophone, accusé d'être anti-religieux et en faveur de la séparation de la synagogue et de l'État. De leur côté, les chefs de la formation bleu-blanche récusent Netanyahou pour avoir trempé dans des affaires de corruption. Il faudra sans doute plusieurs jours avant d'y voir plus clair. Serge Ronen, Jérusalem, pour Radio Vatican.
Et cette nuit, Benjamin Netanyahou a plaidé pour la formation d'un gouvernement sioniste fort, assurant entamer des négociations en vue de cela ces prochains jours. Les États-Unis au secours de leur allié saoudien. Donald Trump envoie son secrétaire d'État Mike Pompeo à Riyad aujourd'hui. Objectif, discuter de la réponse à apporter aux attaques de samedi dernier. Attaques qui ont visé des installations pétrolières et dont Washington impute la responsabilité à l'Iran. Ce nouveau coup de chaud dans le Golfe inquiète la communauté internationale qui appelle plutôt à une réponse collective. Les explications de Manuela Figi.
Il y a quelques jours encore, les États-Unis semblaient vouloir calmer le jeu, temporiser, attendre d'être sûr de la responsabilité de l'Iran avant de décider quoi que ce soit. L'envoi de Pompeo à Riyad aujourd'hui indique peut-être que les preuves sont réunies et de fait, le ton est devenu plus comminatoire. Mike Pence, le vice-président américain, l'a répété hier soir, les États-Unis ne veulent pas faire la guerre, mais ils sont prêts à défendre leurs intérêts, ceux de leurs alliés et à riposter. Mike Pompeo doit rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman ainsi que plusieurs responsables saoudiens avant de donner une conférence de presse. On s'attend donc à des annonces de réponse, mais de l'avis des experts, il est peu probable que la Maison-Blanche décide d'un bombardement massif sur l'Iran. Les conséquences, un nouveau choc pétrolier par exemple, seraient trop lourdes. Les options sont donc limitées pour le Royaume saoudien, dont l'humiliante vulnérabilité a été mise à nu avec ses attaques. Sa production de pétrole a chuté de moitié ces derniers jours, sans parler du fait que la communauté internationale ne se presse pas pour accuser son ennemi iranien. Paris, Berlin ou Pékin se sont bien gardés d'accuser qui que ce soit, attendant les fameuses preuves que les États-Unis ont promis de fournir.
Manuela Afiji. C'est une libération qui fait grand bruit au Venezuela, celle du vice-président du Parlement, Edgar Zambrano. Résultat d'un accord entre le gouvernement chaviste de Nicolas Maduro et des partis d'opposition minoritaires. Edgar Zambrano avait été arrêté après la rébellion manquée contre Maduro le 30 avril dernier. Et sa libération hier pourrait marquer un plus large processus concernant tous les prisonniers politiques du pays. Selon les ONG, il y a 478 prisonniers politiques au Venezuela, dont 107 militaires. La relation franco-italienne veut reprendre des couleurs. Le président français est attendu en Italie ce mercredi. Emmanuel Macron a rendez-vous à Rome avec son homologue Sergio Mattarella et Giuseppe Conte, le président du Conseil. Tout cela une semaine après l'entrée en fonction d'un gouvernement pro-européen. Cette visite française veut donc marquer un nouveau départ avec le voisin italien. Les précisions à Rome de Blandine Hugonnet.
C'est une visite symbolique et politique. Le président français est le premier chef d'État européen de passage en Italie depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Un exécutif inédit dans lequel les démocrates ont remplacé l'extrême droite aux côtés du mouvement 5 étoiles. Tout le défi pour Giuseppe Conte sera de faire oublier les attaques et les provocations qui ont sérieusement refroidi les relations avec la France et même provoqué le rappel historique de l'ambassadeur français à Rome cette année. Pendant des mois, la coalition populiste avait fait d'Emmanuel Macron son ennemi numéro un. Mais le vent a tourné en quelques semaines avec le chef de la Ligue écartée. La gauche de retour, la nouvelle majorité s'affiche pro-européenne et semble plaire aussi à Bruxelles. Plus crédible auprès de ses voisins, l'Italie, pays fondateur, compte redevenir un partenaire de poids en Europe. Ce mercredi, avec cette visite, le président français vient assurer Giuseppe Conte de son aide. Deux dossiers urgents et délicats sont au menu de leur dîner de travail. La croissance italienne à l'arrêt pour proposer un plan de relance aux Européens. Quant à la question migratoire, la France est prête à soutenir l'Italie pour mettre en place une répartition automatique des migrants. Ces dernières heures, plusieurs dizaines ont encore débarqué sur les côtes italiennes. À Rome, Blandine Hugonnet pour Radio Vatican.
Et Rome toujours au Vatican, on a appris hier qu'un prêtre italien était renvoyé devant la justice vaticane pour abus sexuels commis au petit séminaire du Vatican. L'ancien recteur comparaîtra d'ailleurs pour complicité. Selon la salle de presse du Saint-Siège, le procès ne pouvait normalement pas se tenir en l'absence de plainte formelle de la victime, mais le pape François a exceptionnellement levé cet empêchement de la loi vaticane. 90 migrants vont débarquer à Malte, comme le demandaient les gardes-côtes italiens. La Valette a annoncé hier soir accepter ces réfugiés secourus dans ses eaux. Le navire humanitaire français Ocean Viking a dans le même temps pour sa part secouru 48 personnes qui se trouvaient dans une situation très précaire au large de la Libye. Et sachez que dans 10 jours, le 29 septembre prochain, le pape François présidera une messe pour les migrants place Saint-Pierre à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié. C'est un constat d'échec pour Pedro Sanchez et une crise institutionnelle qui traverse l'Espagne. Le Premier ministre socialiste a annoncé hier n'avoir pas réussi à rassembler les soutiens nécessaires pour former un gouvernement. Les partis s'étaient succédé chez le roi Felipe VI pour tenter de négocier une issue, en vain. L'Espagne en route donc pour de nouvelles élections législatives, les quatrièmes en 4 ans. Elles auront lieu le 10 novembre. Le Parlement espagnol, quant à lui, sera dissous lundi prochain. Tous les regards tournés vers la Cour suprême britannique et ses 11 juges qui vont faire face à un cas unique. À l'issue de 3 jours de débat entre hier et demain, la plus haute instance judiciaire britannique doit déterminer si Boris Johnson a ordonné illégalement ou non la suspension du Parlement. À Londres, toutes les explications de Jean Jaffré.
Les 11 juges de la Cour d'appel auront à trancher si la primauté du Parlement sur l'exécutif affirmée depuis 1689 a été violée. C'est ce que la plus haute juridiction écossaise a estimé la semaine dernière. Dans l'attendue de son arrêt, les 3 juges avaient considéré la suspension du Parlement illégale et l'ont qualifié de tentative flagrante d'étouffer le débat démocratique. Mais précédemment, la Haute Cour à Londres avait conclu qu'il s'agissait d'une décision politique sur laquelle les juges n'avaient pas à se prononcer. À l'ouverture de la première audience, Lord Panic, représentant les anti-Brexiteurs, a d'abord souligné que jamais depuis près de 50 ans, aucun Premier ministre n'avait suspendu le Parlement pour une période aussi longue. Il est évident, a-t-il poursuivi, que le Premier ministre Boris Johnson voulait éviter tout contrôle parlementaire qui risquerait de faire échouer sa décision de faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive, avec ou sans accord. Absolument pas, a vivement rétorqué Boris Johnson quand une journaliste de BBC lui avait demandé s'il avait induit en erreur la souveraine. Mais la présidente de la Cour suprême, Brenda Hale, avertit qu'il n'appartenait pas aux 11 juges de déterminer quand et comment le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Jugement vendredi au plus tôt. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
On part enfin en RDC où l'ex-ministre de la Santé du pays, Oli Yunga, a été inculpé hier. Il est accusé de détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola. Des ennuis judiciaires qui interviennent moins de 2 mois après sa démission fracassante du gouvernement congolais en exprimant son désaccord profond avec le président Tshisekedi. 3 jours auparavant, le chef de l'État congolais avait décidé de placer cette riposte anti-Ebola sous son contrôle direct, écartant de facto le ministre de la Santé. L'actuelle épidémie d'Ebola, la 10e sur le sol congolais, a tué à ce jour près de 2100 personnes dans l'est de la RDC. La RDC, justement, où le président Félix Tshisekedi poursuit sa visite en Belgique, une visite officielle sur fond de normalisation des relations entre la République démocratique du Congo et l'ancienne puissance coloniale. Après plusieurs années de tensions sous l'ère de Joseph Kabila, le nouveau président devrait en effet profiter de ce premier déplacement en Europe pour marquer une rupture avec les positions de son prédécesseur. Premier rendez-vous, une rencontre avec le premier ministre belge Charles Michel et des membres du gouvernement. Un déjeuner hier midi chez le couple royal avant un discours devant la Fédération des entreprises belges à Bruxelles. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit se rendre à Anvers pour une rencontre avec l'industrie diamantaire. Il s'agit à la fois d'une visite symbolique mais aussi pragmatique, c'est ce que relève Philippe Reitens. Il est professeur émérite à l'Université d'Anvers.
Le symbolisme, c'est la reprise de relations les plus cordiales possibles. Mais il y a beaucoup de pragmatisme aussi. Par exemple, le président Tshisekedi s'a reçu dans le monde du diamant, qui est quand même important tant pour la Belgique que pour le Congo. Et j'imagine que le président Tshisekedi va essayer de voir avec le milieu du diamant belge comment la société minière de diamant du Kasaï, la MIBA, va pouvoir faire des affaires avec le centre de diamants le plus important du monde, qui est Anvers. Mais il va également visiter le port d'Anvers, et le port d'Anvers a un partenariat avec le port de Matadi au Congo. Il va visiter l'Institut de médecine tropicale dans un contexte évidemment important, qui est notamment celui de la lutte contre l'Ebola. Donc il y a également des aspects pragmatiques, économiques, mais également sociaux.
Les liens de Félix Tshisekedi avec la Belgique vont-ils faciliter la reprise de cette collaboration ?
Je crois que oui, et c'est une des raisons pour lesquelles Tshisekedi vient en Belgique avant d'aller ailleurs. La Belgique étant l'ancienne puissance coloniale, ayant tout de même encore aujourd'hui beaucoup d'expertise sur le Congo dans les domaines politiques, économiques, académiques, les ONG, c'est la Belgique très souvent qui a maintenu à l'ordre du jour, par exemple de l'Union européenne, le Congo. D'une part, la Belgique peut mettre le Congo à l'ordre du jour pour appuyer son développement, mais d'autre part, si le président Tshisekedi ne fait pas ce qu'il promet, notamment dans le domaine des droits humains, les prisonniers politiques, la liberté de presse, d'opinion, etc. Il se pourrait très bien que la Belgique s'exprimera de façon critique, mettra ces situations-là à l'ordre du jour, ce qui pourrait, une fois de plus, mener à des conflits entre les deux pays.
Pour quelle raison est-il aujourd'hui important pour la Belgique de renouer les liens avec la RDC ?
Le fait que c'est la Belgique qui est considérée par la plupart des pays de l'Union européenne et également par les Américains comme un pays de référence lorsqu'il s'agit du Congo, renforce en fait la stature, je dirais, diplomatique et politique de la Belgique au-delà de son poids réel, il faut bien le dire. Et deuxièmement, le Congo a un potentiel énorme et en particulier un potentiel économique. Les rapports entre la Belgique et le Congo du point de vue économique ont diminué ces dernières années, mais rien n'empêche les entreprises ou certaines entreprises belges de reprendre pied au Congo et d'y développer des activités qui seraient profitables à la Belgique. En même temps, il faut l'espérer au Congo d'ailleurs.
Après la visite du président congolais en Belgique, quelle sera la prochaine étape ?
La marge de manœuvre du gouvernement belge est assez limitée puisqu'il s'agit d'un gouvernement démissionnaire qui ne traite que des affaires courantes et qui ne peut pas s'engager dans de nouvelles initiatives ou en tout cas pas de nouvelles initiatives très importantes. Donc il faudra attendre la formation du nouveau gouvernement et ça peut durer, connaissant la Belgique, ça peut durer encore quelques mois avant que ce gouvernement ne soit là et ce ne sera que le gouvernement qui va être mis en place, espérons-le, vers la fin de l'année, qui pourra véritablement relancer une nouvelle dynamique dans les rapports entre les deux pays.
Interrogé par Hélène Destombes, Philippe Reitens, professeur émérite à l'Université d'Anvers, était ce matin l'invité de la rédaction. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute attentive et de votre fidélité. L'actualité internationale et Vatican revient tout à l'heure en direct de Rome à 13h. En attendant, une seule adresse, www.vaticannews.va. Excellente journée.